Bienvenue à tous, Nanit Talani en direct de Washington pour vous présenter le monde aujourd'hui à la une de l'actualité en ce mardi 4 février 2025. La RDC a demandé des sanctions contre le Rwanda lors du sommet conjoint prévu en Tanzanie sur la crise dans l'Est congolais. Au Soudan du Sud, de violents affrontements intercommunautaires ont fait 41 morts. Le président Trump a signé un décret pour la création d'un fonds souverain américain visant à sauver TikTok. Dans notre rubrique magazine, nous reviendrons sur la situation à Goma en RDC avec un focus sur les déplacés qui choisissent malgré tout de revenir dans leur village.
Dans ces camps de déplacés, on souffre beaucoup et il était difficile d'obtenir de l'aide. Maintenant, on retourne dans nos villages sans même 100 francs congolais.
En sport, focus sur les transferts de Nasser Diga, défenseur burkinabé qui rejoint Wolverhampton, et Cheikh Ndour, italo-sénégalais, qui s'engage avec la Fiorentina. Et bien sûr, ne manquez pas notre page économique. Tout de suite, le journal. Les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame doivent participer ce week-end en Tanzanie à un sommet régional extraordinaire sur la guerre dans l'est de la RDC. Les autorités congolaises exigent des sanctions internationales pour arrêter le Rwanda. Les précisions d'Alexandrine Holunion.
Selon la présidence kenyane, Tshisekedi et Kagame participeront samedi à Dar es Salaam à un sommet extraordinaire conjoint de la communauté des États d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe. Sur fond de crainte d'un embrasement régional, les 16 pays membres de l'Organisation régionale d'Afrique australe avaient réclamé vendredi un sommet conjoint avec les 8 pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, dont le Rwanda est membre. Dans ce contexte, le président sud-africain a réitéré ce lundi son soutien au peuple de RDC en réponse à des critiques dans le pays sur la participation de l'Afrique du Sud à la mission de la SADC déployée depuis 2023 dans le Nord Kivu. Félix Tshisekedi a promis une riposte vigoureuse à l'offensive du M23 tout en exhortant la communauté internationale à sanctionner le Rwanda. Une décision forte, non seulement pour condamner, mais pour arrêter ce que fait le Rwanda, parce que ce n'est pas acceptable si l'on veut préserver la paix en Afrique et dans notre région, a déclaré Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, lors d'une interview à Kinshasa, la capitale du pays.
Le procès en appel de 4 accusés condamnés à perpétuité pour l'attentat djihadiste de Grand Bassam en Côte d'Ivoire en 2016 qui avait fait 19 morts doit se poursuivre jeudi à Abidjan en Côte d'Ivoire avec des témoins à la barre. Il a repris hier après plusieurs mois de renvoi. En 2022, 10 accusés avaient été condamnés à la prison à vie pour leur rôle dans cet attentat, dont 6 par contumace. Les 4 présents au procès, Antao Ag Mohamed Cissé, Sidi Mohamed Kunta, Mohamed Cissé Hassan Bari, sont accusés d'avoir aidé à la préparation de l'attaque, ce qu'ils nient. Le procès avait été renvoyé en mai 2024 en raison de l'absence d'avocats pour leur défense. L'attaque, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, avait ciblé des restaurants fréquentés par des étrangers à Grand Bassam, tuant 19 personnes et blessant 33 autres. Au Soudan du Sud, 41 membres d'une communauté pastorale ont été tués la semaine dernière dans le sud du pays où les violences entre éleveurs et agriculteurs sont fréquentes. Un responsable local a déploré lundi un massacre. Les détails avec Mohamedou Oufa.
L'attaque a eu lieu vendredi dernier à Nyolo, un village de l'état méridional d'Équatoria orientale, à 4h30 du matin, heure locale, 2h30 GMT, a indiqué Angok Gordon Kuol, président de la communauté pastorale des Bords, dans un communiqué. 41 personnes, parmi lesquelles des femmes et des enfants, ont été tuées, 65 personnes blessées et de nombreuses autres disparues, précise le texte. Il ne s'agissait pas seulement d'une attaque, mais d'un massacre de sang-froid visant des civils non armés, ajoute le communiqué. Selon l'ONU, l'attaque l'attaque a entraîné des combats de représailles qui ont suscité une peur généralisée au sein de la population et entraîné le déplacement de civils. Dans un communiqué publié dimanche, la MINUS, mission des Nations Unies au Soudan du Sud, s'est dite gravement préoccupée par l'escalade de la violence entre les éleveurs de bétail et les communautés agricoles sédentaires et a appelé à la retenue dans ce pays ravagé par les violences. 22 personnes ont été tuées en novembre dernier dans une attaque par des éleveurs de bétail dans l'État voisin d'Équatoria centrale.
Deux attaques survenues dans le sud et l'ouest du Soudan ont fait 65 morts et 133 blessés selon des sources hospitalières. Ce nouveau carnage survient dans ce pays en guerre depuis presque 2 ans où les hostilités ne cessent de ravager la population. Le secrétaire général de l'ONU se dit inquiet d'informations faisant état d'exécutions sommaires de civils dans le nord de Khartoum, qui seraient l'œuvre de forces alliées à l'armée nationale en guerre contre les paramilitaires des FSR depuis avril 2023.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a suspendu son projet d'imposition de droits de douane au Canada et au Mexique pour 1 mois après des accords concernant la lutte contre le trafic de fentanyl. Le Canada a accepté d'investir 1,3 milliard de dollars pour renforcer la surveillance de sa frontière et de lutter contre les cartels. Le Mexique a promis d'envoyer 10 000 soldats supplémentaires à la frontière pour stopper le fentanyl et l'immigration illégale. M. Trump a aussi indiqué qu'il pourrait entamer des discussions avec la Chine sur des questions similaires. Donald Trump a aussi signé hier un décret visant à lancer la création d'un fonds souverain américain qui, selon lui, pourrait être utilisé pour sauver TikTok. Plus d'infos avec Eddie Isango.
Le président américain a évoqué devant des reporters l'achat de l'application populaire des partages de vidéos TikTok comme un exemple potentiel des transactions qui pourraient être facilitées par un fonds américain. Il n'a pas donné plus de détails. Pour Donald Trump, les États-Unis pourraient mettre TikTok dans les fonds souverains ou, s'ils le veulent, faire un partenariat avec des gens très riches. TikTok fait face à une loi américaine qui lui ordonne de se séparer de son propriétaire chinois, ByteDance, ou d'être interdite aux États-Unis. Trump a donné à TikTok jusqu'au début du mois d'avril pour se conformer à la loi qui répond aux inquiétudes des États-Unis selon lesquelles les gouvernements chinois pourraient exploiter l'application pour espionner les Américains ou influencer secrètement l'opinion publique américaine. Trump attend toutefois un bon accord avec TikTok. Sinon, il ne pourra pas mettre en application son projet. Trump a déclaré être en pourparlers avec plusieurs personnes au sujet de l'achat de TikTok, notamment Elon Musk, Larry Ellison et les géants technologiques Microsoft. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré aux journalistes que les fonds seraient créés dans les 12 prochains mois.
Une juge américaine a prolongé lundi la suspension du gel des subventions publiques décidée par le président Trump, critiquant cette mesure qui avait semé la confusion au sein du gouvernement fédéral. Elle a qualifié cette action d'hypocrite et a estimé que les plaignants, une coalition d'associations, subiraient des dommages irréparables si elle était mise en place. Selon la magistrate, le gel concernait jusqu'à 3 000 milliards de dollars d'allocations et de subventions, un montant trop important pour être suspendu brusquement. La juge a également estimé que la Maison-Blanche avait outrepassé ses prérogatives en intervenant dans les affectations budgétaires, une responsabilité réservée au Congrès. Les États membres de l'ONU ont lancé lundi des discussions historiques pour élaborer d'ici 2027 la première convention universelle de coopération fiscale dans l'espoir de limiter l'évasion en taxant plus équitablement les multinationales et les particuliers les plus riches. Le point avec Jean-Roger Billon.
Les discussions se concentrent sur une répartition plus équitable des droits d'imposition et la lutte contre la fraude fiscale. Sous l'impulsion des pays africains, l'Assemblée générale de l'ONU a validé en 2023 l'idée d'une convention cadre pour rendre la coopération fiscale plus inclusive et efficace. Jusqu'à présent, ces règles étaient largement dominées par l'OCDE, ce que certaines ONG dénoncent comme un monopole des pays riches. Des propositions émergent pour de nouvelles taxes mondiales, notamment sur le transport aérien et maritime, afin de financer la lutte contre le changement climatique. Si ces discussions suscitent de l'espoir, leur aboutissement en 2027 reste incertain. Plusieurs pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, s'opposent au terme de la future convention. Un point clé des négociations sera le mode de décision, la majorité étant préférée aux décisions par consensus qui pourrait donner un droit de veto à certains États.
C'est tout pour les nouvelles. Vous suivez le journal sur VOA Afrique et voaafrique.com. Passons maintenant à notre segment économique avec Eric Manirakiza.
Au Gabon, le directeur de la société de pêche Amergé a indiqué qu'un bateau qui pêchait dans le golfe de Guinée au large du phare de Gombe a été attaqué vendredi autour de 21h par une pirogue de pirates enlevant trois marins. Le golfe de Guinée, qui s'étend sur 5700 km du Sénégal à l'Angola, est au cœur de flux commerciaux en provenance ou en direction d'Europe, des États-Unis et d'Asie. Artère majeure des échanges d'hydrocarbures et de gaz, il jouxte tous les grands pays producteurs de l'Ouest de l'Afrique. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a pris la tête par intérim d'un organe fédéral chargé de la protection des clients des banques, a annoncé cette organisation lundi après le renvoi du précédent directeur par le nouveau gouvernement. Le président Trump estime que tous les services de l'État doivent être totalement alignés sur son agenda politique. Il a aussi promis de libérer les entreprises des régulations qu'il juge excessives, tout en réduisant de manière drastique la dépense publique. Par ailleurs, Trump a signé lundi un décret qui doit annoncer la création d'un fonds souverain américain.
Rendez-vous à présent avec Yakuba Ouedraogo pour notre segment sportif. Bonjour Yakuba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Nasser Diga annoncé à Wolverhampton.
Oui, le défenseur central burkinabé doit rejoindre le club anglais pour environ 13 millions d'euros proposés à l'Étoile Rouge de Belgrade. Pour en parler, nous avons joint à Ouagadougou, Burkina Faso, Barnabé Cabré, journaliste à Radio Omega.
Une bonne nouvelle pour Diga, une bonne nouvelle pour le football burkinabé. Diga, c'est un défenseur qui n'hésite pas à aller au charbon. Il aime les contacts, il est bon de la tête. On l'a vu cette saison avec la Ligue européenne des champions, où il a notamment inscrit un but. Il faut dire que Diga, c'est le joueur le plus utilisé par son entraîneur de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et ce n'est pas pour rien si en fin d'année 2024, il a été désigné comme le meilleur joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade. Il a évolué à Vitesse FC, c'est d'ailleurs le club qui l'a formé. C'est un club de l'ancien international burkinabé, Mamadou Zongo Dibébéto. Avec Vitesse, il a joué 40 matchs entre 2019 et 2021. Il a joué la CAN Junior 2021 avec les étalons du Burkina Faso, c'était en Mauritanie. Il signe ensuite au FC Ballon Suisse où il ne joue pas régulièrement. Il est prêté à Nîmes en Ligue de Française où il se fera remarquer. En 2023, Yakuba Nasser Diga est prêté une nouvelle fois à l'Étoile Rouge de Belgrade qui le rachète définitivement. Avec le club serbe, c'est près de 50 matchs joués. Il rejoint donc le club anglais de Wolverhampton. C'est dans un championnat plus médiatisé, même si le club est présentement en difficulté en Première Ligue avec une 17e place. Ce sera de grands matchs contre de grands noms, contre de grands clubs comme City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Aston Villa, Manchester United. Ce sera bien sûr beaucoup plus d'expérience pour Yakuba Nasser Diga et un plus pour l'équipe nationale de Burkina Faso. La La question qu'on se pose, est-ce que la hiérarchie sera bousculée quand on sait qu'aujourd'hui en équipe nationale, c'est une association Tapsoba Dayo dans la charnière défensive des étalons. Yacouba Nasser Djiga est régulièrement appelé par le coach Brahma Traoré, avant Brahma bien sûr Hubert Velure, et même Kamou Malo ont fait plusieurs fois appel à Nasser Djiga, mais jusqu'à présent il n'a pas pu s'imposer en équipe nationale. Est-ce que cette signature va changer les choses et essayer de faire bouger les lignes dans la charnière défensive des étalons? Tout dépendra de Djiga.
Barnabé Cabré, journaliste à Radio Omega.
Autre nouvelle de transfert, Cher Ndour, transféré définitivement à la Fiorentina.
Le milieu de terrain italo-sénégalais du Paris Saint-Germain, qui évoluait sous forme de prêt au club estambouliote de Besiktas, a été définitivement transféré à la Fiorentina, annonce faite par le club parisien.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nani Toutalani, toujours en votre compagnie. Pour finir, découvrons notre section magazine. En République démocratique du Congo, des milliers d'habitants qui avaient fui leur village face à l'avancée du M23 quittent les camps de déplacés installés dans la périphérie de Goma. Le groupe rebelle continue sa progression dans l'est de la RDC après avoir annoncé la prise de la grande ville de Goma, ce que Kinshasa n'a toujours pas confirmé. Le conflit risque de se transformer en guerre régionale, prévient le Burundi voisin. Récit d'Alexandrine Holognon.
L'immense camp de déplacés de Kanyaroutine, situé en périphérie de Goma dans l'est de la RDC, s'est presque entièrement vidé après l'entrée du M23 et l'armée rwandaise dans la ville. Auparavant, une centaine de milliers de déplacés s'y entassaient dans des conditions d'hygiène et de sécurité effroyables, comme dans toute la périphérie de Goma. Certains habitants du camp disent avoir subi des pressions pour partir, mais la plupart assurent qu'ils ont préféré rentrer d'eux-mêmes avant d'être forcés à le faire.
Dans ces camps de déplacés, on souffre beaucoup et il était difficile d'obtenir de l'aide. Maintenant, on retourne dans nos villages sans même 100 francs congolais et pour survivre, on vend nos bâches qui sont en fait des bâches récupérées. Je n'ai rien sur moi et là où nous allons, il n'y a absolument rien. Nous rentrons chez nous, mais nous ne savons pas comment nous allons survivre.
Goma commence timidement à revivre après plusieurs jours de combat, mais les morgues débordent et les membres de la Croix-Rouge congolaise et du Comité international de la Croix-Rouge continuent de ramasser des dizaines de corps par jour. Alors que le M23 continue sa progression dans l'est de la RDC, les milices armées qui soutiennent les forces armées congolaises forment de nouvelles recrues désireuses de rejoindre la lutte contre le groupe armé M23.
Nous avions entraîné nos compatriotes ici pendant 3 jours déjà. Ils sont déjà aptes à toutes les gymnastiques que nous sommes en train de leur offrir. Il y a les sauts de crapauds et consorts, il y a les rampages. Et il y a d'autres que je ne voulais pas donner ici pour ne pas donner secret à nos ennemis parce que vous savez que nous sommes en train d'y aller d'ici bientôt. Mais je voulais seulement rassurer que nos compatriotes ici sont bel et bien formés dans des gymnastiques pour les chars de bataille.
Ces dernières semaines, l'avancée fulgurante du groupe armé antigouvernemental et des forces armées de Kigali face à des troupes congolaises dépassées a suscité la crainte d'une propagation du conflit. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dit la semaine dernière son inquiétude d'un embrasement régional. D'après l'ONU, au moins 700 personnes ont été tuées et 2800 blessées lors des combats pour le contrôle de Goma entre dimanche et jeudi.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo. Le président américain Donald Trump a accusé dimanche l'Afrique du Sud de confiscation de terres après la promulgation d'une loi d'expropriation sans compensation et a annoncé l'arrêt de tout financement du pays le temps d'une enquête. En Afrique du Sud, la majorité des terres sont détenues par la minorité blanche du pays, héritage d'une politique d'expropriation de la population noire pendant l'apartheid. Plus de précisions avec Dili Diko.
Le président Donald Trump a estimé sur son réseau Truth Social que l'Afrique du Sud confisque des terres et traite très mal certaines catégories de personnes. Il a ajouté qu'il couperait tout financement futur à destination de l'Afrique du Sud jusqu'à ce qu'une enquête complète sur cette situation soit achevée. Pour Pretoria, le texte promulgué fin janvier ne permet pas aux autorités d'effectuer des expropriations de manière arbitraire, car elles doivent d'abord tenter d'aboutir à un accord avec le propriétaire terrien. La nouvelle loi permet au gouvernement, dans certaines circonstances et par mesure d'intérêt général, de décider d'expropriation sans compensation. En Afrique du Sud, la question foncière est un sujet clivant et les organisations qui s'opposent au nouveau texte n'ont pas tardé à réagir. Écoutons Ernst Van Ziel, responsable des relations publiques d'AfriForum.
Du côté d'AfriForum, je peux confirmer ce que nous avons communiqué. Il s'agit du fait que l'Afrique du Sud, le gouvernement sud-africain, a adopté un projet de loi qui menace les droits de propriété privée en Afrique du Sud et qui rend possible l'expropriation sans compensation.
L'attention des ONG sud-africaines s'est portée sur le programme PEPFAR, le plan présidentiel d'aide d'urgence à la lutte contre le sida. Poncho Pilane est activiste et auteur sud-africaine.
NGOs that are funded by PEPFAR cannot not operate without this funding.
Les ONG financées par le PEPFAR ne peuvent pas fonctionner sans ce financement. La première question qui se pose est donc de savoir ce qui va se passer, et de nombreuses personnes du secteur impliquées d'une manière ou d'une autre dans la lutte contre le VIH s'interrogent à ce sujet. Nous avons été très heureux d'apprendre qu'il y avait eu une dérogation à l'ordre de suspension, car cela signifie que les gens peuvent maintenant travailler s'il s'agit de services de santé d'urgence.
Le département d'État a annoncé que les programmes offrant une assistance vitale, médicaments, services médicaux, nourriture et abri, seraient exemptés du gel de l'aide sans plus de précision. Et le ministre sud-africain de la Santé, Aaron Motsoaledi, a déclaré que les États-Unis financent près de 20% du programme annuel de lutte contre le VIH de l'Afrique du Sud à travers le PEPFAR. Pour Gertrude Toukoura, c'est le signe que l'Afrique ne doit pas compter sur l'aide extérieure. Écoutons la chargée de marketing digital, Gertrude Toukoura.
Pour ce qui est de l'aide qu'il a supprimée pour l'Afrique, je pencherai plutôt pour ce qu'a dit Uhuru Kenyatta. Je suis d'accord pour dire que c'est un signal d'alarme pour les dirigeants africains qui doivent faire mieux et ne pas compter uniquement sur l'aide internationale.
Concernant la menace de suspension de l'aide américaine, le président Ramaphosa a précisé qu'à l'exception de l'aide provenant du programme américain PEPFAR de lutte contre le VIH-SIDA, il n'y a pas d'autre financement important des États-Unis à l'Afrique du Sud.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Togo, dans un contexte où le droit semble souvent méconnu et où trop de personnes renoncent à leurs droits en raison de la complexité ou des coûts associés, la Legal Tech s'impose comme une solution innovante pour faciliter l'accès aux services juridiques. Grâce à des outils technologiques avancés, cette solution contribue non seulement à simplifier l'accès aux droits tout en réduisant les inégalités, mais elle s'engage pour une justice plus inclusive. Illustration avec la Legal Tech, Mia Beloya, qui œuvre à démystifier le droit et à le rendre compréhensible pour tous en intégrant des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle et l'automatisation pour faciliter l'accès aux droits. Reportage de notre correspondante Amène Assignon à Lomé.
Amaga a fait l'expérience il y a 2 ans d'une Legal Tech pour mieux structurer ses services et gagner en crédibilité auprès de ses clients. Et depuis, ils ne s'en passent plus.
Le produit qui nous a plus intéressé, c'est leur boîte à outils. Donc avec la boîte à outils, vous avez un contrat de prestation qui vous permet de pouvoir limiter ce nombre, par exemple, de corrections, de permettre aux clients aussi de pouvoir être sérieux et de vous permettre de gagner du temps et de l'argent.
Rendre le droit accessible grâce à des solutions numériques adaptées. Au Togo, la Legal Tech dénommée Miabe Loya en a fait son cheval de bataille. Incarnée par une jeune juriste d'affaires engagée dans la croissance des entreprises en Afrique, cette solution technologique se consacre à la vulgarisation de l'éducation juridique et se positionne sur la sécurisation des biens et intérêts des PME.
Aujourd'hui, la Legal Tech Miabe Loya révolutionne la gestion contractuelle, la gestion des risques de conformité et permet également aux juristes de pouvoir valoriser son impact en termes d'impact économique sur le continent.
La plateforme dispose d'une boîte à outils qui permet de faire une gestion contractualisée de façon automatique mais aussi de manière adaptable pour répondre aux besoins des utilisateurs. Elle intègre des technologies avancées comme l'intelligence artificielle pour améliorer le choix intuitif de l'outil. Une solution qui transforme la pratique du droit, attestent les professionnels de droit.
Elle est utile aux professionnels du droit en ce sens que le professionnel du droit peut également avoir des documents automatisés et des documents standardisés qui sont déjà rédigés, où le professionnel, pour gagner du temps, peut avoir recours tout simplement de ces documents-là pour faciliter la rédaction des actes juridiques. Et pour la rédaction d'un contrat, par exemple.
Au-delà de l'innovation technologique, Miabe Loya veut apporter sa contribution dans la démocratisation du droit pour une justice plus inclusive. En cela, la Legal Tech a mis en place un centre d'écoute.
Un centre d'écoute pour écouter les personnes qui sont en situation conflictuelle avec d'autres personnes, notamment des femmes qui sont en situation vulnérable, des femmes qui sont dans des procédures de divorce, qui subissent des violences conjugales, des femmes et des familles qui, lors de la perte, par exemple, d'un conjoint, du mari, se retrouvent à la merci de famille. Nous apportons du conseil et de l'orientation pour qu'ils comprennent que la loi, elle existe d'abord pour les protéger.
Pour renforcer son impact social, la plateforme a adopté un modèle tarifaire avec des services gratuits pour les utilisateurs aux revenus modestes. Amène Assignon pour VOA Afrique, Lomé.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Lorsque des incendies se sont déclarés dans la région de Los Angeles en Californie, ici aux États-Unis, les habitants se sont tournés vers une application pour obtenir des informations immédiates sur les dangers liés aux incendies. Michel Kin en parle dans ce reportage relaté par Michel Joseph.
Alors que les incendies de Los Angeles menacent les communautés, les habitants et les premiers intervenants ont besoin d'informations qu'ils peuvent utiliser immédiatement. Par exemple, les zones d'évacuation, la direction du vent et de la fumée, les coupures de courant et bien d'autres encore. Beaucoup se sont tournés vers Watch Duty, une application gérée par une équipe opérant à des centaines de kilomètres de là, dans le nord de la Californie. Watch Duty fournit aux habitants des informations cruciales sur les nouvelles épidémies, les changements de régime de vent et d'autres sujets de préoccupation. Ce centre virtuel d'opérations d'urgence fournit des mises à jour, quartier par quartier, au fur et à mesure de l'évolution de la crise. Nick Rosso est vice-président des opérations de Watch Duty. Il a parlé à VOA sur Zoom.
My emergency and my neighbor who lives.
Mes urgences et celles de mon voisin qui vit à environ 400 mètres de moi sont très différentes. C'est vrai pour toutes les communautés et c'est là que la technologie entre en jeu.
Le fait que Watch Duty fournisse des informations détaillées et localisées est l'une des raisons de sa popularité auprès de ses 7 millions d'utilisateurs, dont beaucoup ont téléchargé l'application au cours des dernières semaines. Alert California, géré par l'Université de Californie à San Diego, est l'un des partenaires technologiques de Watch Duty. Son réseau de plus de 1000 caméras équipées de IA dans tout état recherche la fumée, détectant souvent les incendies avant que les gens n'appellent les services d'urgence. De nouveau, Nick Russell.
Ensemble, nous devenons les yeux et les oreilles et nous diffusons ensuite ces informations dans des rapports destinés au public par le biais de notre plateforme.
Un autre partenaire de Watch Duty est N5 Sensors, une entreprise basée dans le Maryland. Ses capteurs au sol détectent la fumée, la chaleur et d'autres signes d'incendie, nous dit Nick Russell.
Ils sont comme un nez, si l'on peut dire, et détectent les anomalies de la fumée et les différents schémas chimiques dans l'air.
Le service de Watch Duty couvre 22 États, principalement dans l'ouest des États-Unis, et prévoit de s'étendre à tous les États. Bien que les incendies soient au centre de ses préoccupations, Watch Duty prévoit également de suivre d'autres catastrophes naturelles, telles que les tornades, les ouragans, les tremblements de terre et les tsunamis, nous dit Nick Russell.
Nous voulons être ce guichet unique où les gens peuvent se rendre et obtenir ces informations dans ces moments difficiles afin de disposer d'une source qui explique clairement et de manière concise ce qui se passe.
Voilà qui conclut notre journal. Vous pouvez le réécouter sur voaafrique.com. Pour les dernières nouvelles, analyses et interviews, ne vous déconnectez pas de nos pages Facebook, Instagram, X et YouTube. À la présentation, Nanit Talani. À la mise en onde, Firmin Max Kouyaouida. À la technique, Kelvin Fowler. Bon début de journée et prenez soin de vous.